I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Vincent Barat, qui est le fondateur et le CEO d'Albert. Albert, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un outil pour faire de la planification RH. Et oui, si vous n'étiez pas au courant, eh bien moi non plus, je ne l'étais pas avant de rencontrer Vincent, on peut planifier ses RH. Et c'est absolument passionnant. J'ai appris énormément de choses pendant cet entretien et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter celui-ci que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Vincent.
Bonjour Gaël.
Alors Vincent, je suis extrêmement content de vous recevoir parce que vous m'avez fait découvrir quelque chose. Ça fait, c'est la sixième saison de Happy Work quand même et j'ai parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis tombé sur vous grâce à une connaissance commune, Kevin Bourgeois de Supermood, pour ne pas le nommer, que j'ai interviewé il y a quelques jours, et qui m'a dit « Gaël, vous devriez appeler Vincent ». Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Parce qu'il fait de la planification RH. Alors là, je suis un peu tombé de ma chaise, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et en fait, vous êtes le créateur de Albert, qui est une entreprise qui fait de la planification RH. Donc, je vais vous poser une question béotien, hein, Vincent. C'est quoi donc la planification RH ?
Planification RH, effectivement, c'est pas forcément le domaine le plus connu hein, dans le monde RH, ni le plus visible. Et bien, pour autant, ça vous viendrait pas à l'idée dans une entreprise de pas planifier la supply chain, de pas planifier les finances, le budget. Et pour autant, il y a un sujet qu'on planifie très mal, et on va dire que la plupart des entreprises ne le font pas, c'est de planifier les besoins en effectifs et en compétences sur une année, deux années, trois années. 10 années, parfois, dans certains secteurs. Et la planification RH, la planification des effectifs et des compétences, c'est juste mettre en relation une offre et une demande. L'offre, c'est de quoi je disposerai dans les années qui viennent, et la demande, c'est de quoi j'ai besoin selon des scénarios métiers. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'ouvre des nouveaux magasins, qu'est-ce qui se passe si j'automatise des lignes de production, etc. Et entre les deux, il y a des écarts, évidemment, qu'il faut combler. Et pour ça, on a tout un arsenal habituel d'actions RH. Donc, en résumé, c'est un peu le business plan, mais pour les RH, donc c'est le people plan.
Mais c'est ça qui est assez fascinant, parce qu'en fait, en préparant cette interview, j'ai vu que très peu d'entreprises le font pour l'instant, alors que comme vous le dites, hein, c'est en comptabilité, en finance, c'est une évidence, même en communication, en marketing, mais en RH, très peu. Donc vous avez travaillé sur ces sujets, vous êtes aperçu qu'il n'y avait pas d'outil, donc vous avez créé un outil. Et cet outil s'appelle Albert. Alors là, j'ai une question sérieuse et une un peu moins sérieuse. Je vais commencer par la moins sérieuse. Pourquoi Albert ? Et la sérieuse, c'est quoi Albert ?
Alors, souvent c'est une question, alors c'est un super icebreaker, hein, c'est une question que je pose souvent à mes prospects. Alors les plus littéraires me diront, oui, est-ce que c'est un rapport avec Albert Camus ? Non, on est sur un outil qui est... quasi scientifique. On est sur un outil également qui se veut pas intimidant et qui vulgarise le sujet de la data et de la modélisation et de l'IA au service des ressources humaines. Et on s'est dit, quelle est la personne qui incarne le mieux le côté scientifique et en même temps qui soit une icône populaire.
Je vous vois pas du tout venir.
Non, Vincent, avec mes gros sabots, non, pas du tout. Et donc, il s'agit bien évidemment d'Albert Einstein.
D'accord.
Alors, pour ce qui est Albert, le produit, du coup, alors c'est pas du tout modeste hein, comme choix de prénom. Pour ce qui est du produit en lui-même, ce qu'il permet de faire, c'est que déjà, il permet d'agréger la donnée au même endroit. Il y a quelque chose d'assez, un mal très typique des ressources humaines, c'est que la donnée, elle est un petit peu éparpillée partout. Il y a de la donnée qui est en finance, la donnée notamment liée à la paye, etc. Il y a des données qui sont entre les mains des opérationnels. C'est tout bête, mais par exemple, les externes, les travailleurs temporaires, c'est pas les RH qui les gèrent, c'est souvent les opérationnels directement. Et puis, il y a de la donnée qui est évidemment dans le SIRH. Et quand je dis le SIRH, parfois, il y en a plusieurs.
Oui, bien sûr.
voilà, on a fait des acquisitions d'entreprises. Il y a des sujets liés aux compétences qui vont dans un système, une talent marketplace par exemple. Il y a les données de performance ou d'engagement qui vont dans une plateforme comme celle de Kevin. Les données liées aux dates de naissance qui vont être dans le core HR. Donc tout ça va être un peu éparpillé. Donc déjà, il y a une première vertu, c'est de tout rassembler en un seul endroit. Donc ça, c'est le premier objectif de Valbert, c'est d'avoir la donnée consolidée et de pouvoir l'analyser selon différents angles. Bon, jusque-là, c'est intéressant, mais ce n'est pas très intelligent. Vient la deuxième étape, où là, on retrouve un peu plus le côté Einstein pour le coup, où il y a des algorithmes de l'IA qui vont venir sur la base des données passées, simuler le film en accéléré de tout ce qui va se passer dans l'entreprise. Donc, par exemple, des départs en retraite, des départs naturels, des fins de contrat, etc. Et donc, on va simuler l'érosion naturelle de notre capital humain. Donc ça, c'est la deuxième vertu. La troisième, c'est que on va, donc je le disais tout à l'heure, pouvoir créer des scénarios dans Albert. Et ces scénarios vont pouvoir coller à des inducteurs, des rationnels liés au business, liés au métier. Ça peut des, par exemple, j'implémente de l'intelligence artificielle qui va lire automatiquement les chèques bancaires. À côté de ça, je vais lancer des nouveaux produits. Bref, tout un tas d'éléments du monde réel hein, qui vont faire le passage avec un besoin qui soit en effectif ou en compétence. Et puis, ce que va faire Albert ultimement, c'est qu'il va calculer les écarts entre ces scénarios et la projection d'effectifs. Et ça va permettre de suggérer des plans d'action. Et là, on va retrouver les actions habituelles. Je recrute, je forme, j'envoie en mobilité, je laisse partir, et j'insiste là-dessus, souvent il n'y a pas besoin de faire partir, je laisse partir et je ne renouvelle pas. Je pense que vous n'avez pas imaginé du nombre de, vous n'avez pas idée du nombre de plans sociaux qu'on a évités.
Oui, mais c'est ça qui m'a vraiment fasciné, Vincent, quand la première fois où on s'était parlé, parce que avec mon mauvais esprit naturel, je me dis, ah, ok, ça doit être encore un outil pour optimiser les effectifs, et donc qui dit optimiser les effectifs dit les réduire. Mais c'est là que c'est très très étonnant, si vous m'avez dit qu'effectivement, grâce à Albert, des plans de licenciement ont été évités. Est-ce que vous pourriez expliquer justement comment ça se passe ?
Alors évidemment, c'est extrêmement frustrant parce que toute proportion gardée, hein, attention, c'est un peu comme les attentats déjoués. On ne peut pas communiquer dessus et on ne peut pas évidemment afficher, clamer haut et fort ce qu'on a évité. Mais il y a encore quelques semaines, il y a 3 semaines précisément, ça nous est arrivé, il y a 300 postes qui ont été préservés grâce à ça. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que on va rentrer dans une démarche d'économie et de réduction des effectifs. C'est un atavisme assez logique parce que 60% des dépenses, c'est les dépenses liées au personnel.
Oui, c'est important de le rappeler quand même. C'est ça qui est étonnant. C'est on ne prévoit pas sur le plus gros poste de dépenses de l'entreprise.
Non, mais on marche sur la tête. Enfin,
c'est un peu, oui. Mais quand on en parlait, il y a beaucoup de RH qui ne connaissent pas le taux de turnover.
Et alors, justement, c'est un des enjeux d'Albert, c'est de pouvoir récupérer ce taux de turnover et donc utiliser cet élément d'attrition pour simuler cette décroissance.
Bien sûr.
Et bien souvent, quand on nous annonce ce plan d'économie et qu'on nous dit bah, va falloir réduire les effectifs, le réflexe de tout le monde, c'est de dire « Ah, il faut que je fasse moins 300 » parce qu'on raisonne en poste, mais on ne raisonne pas en personne. Et le truc, c'est qu'on sous-estime l'effet du turnover sur la diminution naturelle des effectifs. Et donc, la plupart du temps, on n'a pas besoin, on va peut-être supprimer les postes, mais on n'a pas licencié de personnes. Il faut avoir en tête quand même qu'un licenciement, même dans les pays, entre guillemets, où le droit du travail est un peu plus relâché, comme aux États-Unis, bah, ça coûte cher, ça coûte très très cher. Et assez rapidement, un plan de retraite anticipé, des ruptures collectives, bah, ça chiffre très 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 vite. Donc de pouvoir s'éviter ça, au-delà de la dimension sociale, au-delà de la dimension de l'image, bien évidemment, qui est empathie, c'est juste économiquement plus rationnel de projeter et de prendre le temps de mettre quelques chiffres dans une solution comme Albert.
Et puis surtout, ça donne des arguments très concrets au DRH pour, dans un COMEX, parler à un directeur financier qui, lui, va être forcément très cartésien par nature. C'est son métier d'être cartésien. Mais parfois, les DRH, on les regarde un petit peu du coin de l'œil en disant « Ouais, tu vas encore nous parler de l'humain, etc. » En fait, vous ramenez du rationnel dans, j'allais dire, dans ce qui est irrationnel, non, mais dans ce qui est humain.
Exactement. Et en fait, si on se rappelle, il y a 20 ans, le directeur marketing, on le prenait un peu pour un peintre. Hein. Et c'est une fonction qui a le plus adopté sur les 20 dernières années. la data, avec l'essor aussi de tout ce qui était lié à la digitalisation, à l'e-commerce, la donnée n'existait pas avant. Et il y avait ce proverbe qui était « Oui, la communication, je sais combien ça me coûte, je ne sais pas combien ça me rapporte. » Aujourd'hui, on sait précisément combien ça rapporte. La seule fonction qui est encore un peu à la traîne et dépourvue de chiffres, c'est la fonction RH. Si on n'a pas de chiffres, on n'existe pas dans un COMEX. Et je pense que le workforce planning, c'est comme ça que ça s'appelle, cette planification RH, c'est une façon de démontrer tout le sérieux de l'approche en RH, où évidemment l'aspect social, l'aspect humain, l'aspect entre guillemets science comportementale est fondamental, et c'est ce qui souvent attire ces professionnels dans la fonction. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est difficile à mesurer qu'on ne peut pas mesurer certaines choses liées au volet humain de l'entreprise.
Donc en fait, vous êtes le meilleur ami des DRH.
Et normalement, oui.
Mais justement, quelle est votre typologie de clients? Sont les DRH, j'imagine, plutôt grandes entreprises, petites entreprises, un peu de tout?
Oui, c'est plutôt les entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises, donc de plus de 5000 collaborateurs jusqu'à les plus grosses avec lesquelles on travaille, de 100 000 collaborateurs. C'est des entreprises, il y a un peu deux types. Il y a celles qui vont utiliser la planification RH comme un outil tactique. C'est des entreprises qui ont plus une culture de la transformation et qui vont justement faire face à une réduction d'effectifs, ou au contraire à une hypercroissance, ou à des projets un peu spécifiques, et qui vont vouloir utiliser l'outil, on va dire, de manière, en tout cas initialement, pas de manière récurrente. Et après, ils se rendent compte que ça peut avoir un intérêt d'utiliser ça régulièrement. Et puis, il y a des entreprises qui, culturellement, sont très habituées à se projeter sur le long terme. C'est le cas de la pharma, par exemple, hein, qui a ce réflexe, la banque également, et qui a l'habitude de travailler avec des hypothèses sur des horizons de projection plus ou moins lointains, d'ailleurs. Parfois, c'est 3-5 ans, parfois, c'est un petit peu plus. Parce que dans la pharma, par exemple, quand on développe un nouveau médicament, il y a toute la phase de R&D, puis la phase d'essai clinique, puis la phase de market access, la phase de commercialisation. Donc, ça, il y a différents stades et on a besoin de différentes compétences à différents moments.
Mais la question que je me pose, c'est, imaginons, je suis DRH d'une boîte de, allez, on va dire 20 000 personnes. Et j'entends cet épisode de Happy Work, je me dis, tiens, ça serait quand même assez intéressant. Donc, ça prend combien de temps entre le moment où je vous appelle et le moment où je vais commencer à pouvoir exploiter de la data?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a une autocensure des professionnels à qui on parle, qui ont un peu honte, on va dire. C'est un peu comme si je leur demandais de me montrer leurs chaussettes et qu'ils avaient peur qu'elles soient sales.
Oui.
La donnée en RH, en fait, elle est beaucoup plus propre et exploitable qu'on l'imagine. Elle demande parfois un petit peu de retraitement, mais c'est rare qu'elle soit parfaite, et en fait, c'est pas grave. Ça permet quand même de dessiner les trajectoires. Et donc, si une personne m'entend, elle se dit « j'aimerais bien mettre ça en place, ça prend combien de temps ?» La partie data, en réalité, elle est assez, assez rapide. Nous, on a les équipes aussi en interne qui vont être capables d'accompagner le client dans l'appropriation, l'identification, le mapping, la cartographie des données pour les injecter dans Albert. Et c'est assez surprenant, mais en 2 semaines, sous réserve qu'on ait des référentiels exploitables, mais après ça, on peut les retravailler. En 2 semaines, on a déjà les premières projections. Donc ça, c'est quasi instantané. En revanche, ce qui prend du temps, c'est de mettre en place la démarche et de la rendre récurrente. Et là, la première fois, c'est un peu comme quand on n'a jamais couru de sa vie. La première fois, on a des courbatures. Mmh. Là, c'est un peu la même idée. On va avoir 2-3 mois où il va falloir accompagner les managers. Parce que ça aussi, c'est une particularité d'Albert. C'est que les 3/4 des utilisateurs d'Albert ne sont pas des RH. Ce sont des gens du métier.
Ah, d'accord.
Du business.
Ah, je crois que c'était un outil 100% RH, mais pas du tout. En fait, c'est déployé dans toute l'entreprise.
Exactement, c'est un outil collaboratif qui permet de créer cette conversation stratégique entre le métier et les RH. Donc, alors évidemment, les RH sont ceux qui se connectent le plus. Dans nos statistiques d'utilisation, on voit qu'ils se connectent en moyenne 4 fois par semaine, donc quasiment tous les jours, avec des sessions d'une durée moyenne de 3/4 d'heure, 1 heure, ce qui signifie qu'en fait, c'est vraiment leur outil de travail du quotidien. Ils travaillent sur le recrutement, la formation, etc. Ça leur donne les insights pour derrière orienter leurs actions. En revanche, les business leaders, ils vont se connecter 1 fois par semaine, souvent sur des périodes plutôt courtes de 1/4 d'heure, donc c'est de la consultation, et ça correspond plutôt à des rituels de type réunion de CODIR le lundi matin. Et tous les trimestres, ils vont plutôt passer un peu plus de temps pour mettre à jour les chiffres avec les nouveaux éléments de projection, de forecasting, pour mettre à jour tout ça. Et en volume pure d'utilisateurs, bah, les trois quarts des utilisateurs sont effectivement des managers, ce qui est assez surprenant.
Et est-ce que justement, il y a des choses depuis la création d'Albert qui vous ont particulièrement surprise, que ce soit dans les utilisations, ou est-ce qu'il y a des choses où vous attendiez pas du tout à certains résultats, à certaines datas?
Alors il y a deux choses en particulier qui nous ont surprises. La première, c'est que Albert est extrêmement utilisé comme un annuaire de compétences. Il y a plein de plateformes très bien hein, sur le sujet des compétences qui permettent de les faire émerger et d'orienter le développement des collaborateurs. Nous, c'est pas notre mission première, mais comme on agrège toute la donnée en un endroit,
bien sûr,
il y a énormément de gens qui utilisent la partie la plus bête du produit en termes de complexité, qui est simplement de j'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise les méthodes de développement agile entre un niveau 3 et un niveau 4 et qui est dans telle géographie. Et ça nous bluffe, mais c'est de manière très surprenante une des fonctionnalités les plus évidemment les plus utilisées au quotidien.
Oui, parce que là, ça gère la mobilité interne et ça la facilite.
Et en fait, c'est exactement ça. C'est que c'est utilisé comme un outil de plan de succession, alors que c'est pas forcément le but initial, ou comme un outil de staffing. Et ça, c'est un peu le deuxième usage qui est surprenant. C'est que on est utilisé aussi comme un outil parfois de staffing projet, justement parce que comme on a l'annuaire, derrière on peut affecter des gens à des responsabilités ou à des projets dans Albert et voir comment j'ai de la disponibilité de certaines compétences sur certains projets dans le temps. Donc en fait, on a des usages qui sont extrêmement créatifs de la part de nos clients. On a des clients qui vont être très focalisés sur les compétences, la micro-compétence, d'autres qui vont être plutôt sur la partie masse salariale ou équivalent temps plein, certains qui vont aller sur des usages ponctuels ou très récurrents. En fait, au final, on est assez agnostique dans le cas d'usage parce qu'il y en a une grande diversité.
Alors, je vais forcément poser une question de vieux, Vincent étant vieux moi-même. Non, mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs et des auditrices de Happy Work qui se posent la question, c'est est-ce que l'avenir dans 5 ou 10 ans, c'est de remplacer les DRH par Albert ou des concurrents?
Mais alors, certainement pas. Certainement pas. L'idée, c'est de... Aujourd'hui, notre plus grand concurrent, on en a deux. Le premier, c'est le statu quo, donc ne rien faire et continuer à piloter à l'aveugle. Ça ne vous viendrait pas, Gaël, aujourd'hui, à l'idée d'aller dans une destination que vous ne connaissez pas sans utiliser un GPS.
Bien sûr.
Voilà. Et ben Albert, c'est un GPS. Vous rentrez à la destination, c'est une destination business, mais c'est un peu une vue de l'esprit, et on calcule les itinéraires possibles. Et évidemment, tout au long du trajet, il va y avoir des accidents, il va y avoir potentiellement un peu plus de trafic, de circulation que prévu, et on va recalculer l'heure d'arrivée et le meilleur itinéraire possible. Ça ne remplace pas le fait qu'il y ait un conducteur, le fait qu'il y ait un GPS. En revanche, ça lui enlève un peu de charge mentale et il peut penser à autre chose.
Mais globalement, excusez-moi de vous interrompre, Vincent, je viens de comprendre quelque chose. Le vieux est le plus lent à comprendre. imaginons, je suis dans le COMEX et il y a mon PDG ou ma PDGette qui dit, l'objectif, c'est à 5 ans, il faut qu'on soit à plus 20% de chiffre d'affaires. Globalement, ce scénario, Albert va pouvoir aider le DRH pour faire le plan de montée de charge en termes de recrutement, par exemple.
Tout à fait. Et
c'est génial.
Si Albert est bien calibré en amont et qu'on a un driver qui correspond à l'augmentation de revenus, il a même juste à changer l'hypothèse de 20% de chiffre d'affaires et ça va lui dire exactement combien de personnes ou à quel point il aura un écart dans le futur.
Et tout ça en intégrant les futurs départs, etc. etc. Donc c'est vraiment une planification globale des RH.
Exactement.
Mais c'est magique, c'est magique votre truc.
Bon, on ne comprend pas pourquoi c'est pas systématique. Moi, je suis un peu tombé des nues. En fait, j'étais consultant pendant 10 ans et j'ai mis en place ces démarches-là. Et c'est vrai que quand je raconte mon métier à mon entourage ou à mes amis, ils me disent « Mais ça, les entreprises ne le font pas déjà ?» Et en fait, non.
Ah, mais je vous confirme, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore en entreprise et j'étais dans des COMEX, et quand on avait ce genre de problématique, votre outil, il aurait été extraordinaire.
La beauté de la chose, c'est par exemple, si vous avez en réunion, en COMEX, on dit « Non, mais finalement, tel projet, on ne va pas le faire », plutôt que de revenir dans 2 mois, de remobiliser le cabinet de conseil en strat qui va remouliner les chiffres, en un instant, vous décochez l'effet de ce projet, ou vous pouvez même le décaler dans le temps, et vous avez instantanément les résultats que vous pouvez consulter. Il n'y a même pas de temps de calcul, où la plupart des outils de simulation et de planification, vous avez le temps de... Enfin, une de mes clientes disait, avant, on avait le temps de prendre un café, d'aller prendre une douche et de revenir.
Non, mais vous vendez vraiment du rêve. Je le dis rarement à mes invités, mais c'est vrai que c'est un outil qui fait vraiment rêver par rapport à un passé qui est pas si lointain que ça, où on faisait tout à la mimine, on se plantait assez souvent, honnêtement, parce que quand on commence à avoir des très grosses structures, c'est très compliqué de faire du prévisionnel, donc c'est assez magique. Donc, de toute façon, dans le descriptif de l'épisode, je mettrai le lien pour aller visiter votre magnifique site web et éventuellement prendre contact avec vous, puisque nous arrivons déjà au terme de cette interview, mon cher Vincent. Mais par contre, j'ai une question traditionnelle, j'espère que vous avez bien travaillé sur ce sujet, qui est de demander à mon invité son mantra ou sa citation préférée. Vincent, avez-vous été un bon élève ?
J'étais un bon élève, j'ai fait mes devoirs, mais c'est facile parce que j'aime beaucoup cette citation. Donc, c'est une citation de Benjamin Franklin. Donc, pardon, elle est en anglais, mais c'est « If you fail to plan, you are planning to fail ». Ouais. Et évidemment, ça fait écho au sujet de la planification, que je pense dont il faut qu'on arrête de l'opposer à l'agilité, parce que les deux vont très bien ensemble.
Mais alors, c'est marrant parce que moi, je pensais que vous alliez me sortir une citation d'Albert Einstein qui aurait été assez pertinente. Et il y a une citation de lui que j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup dans mes conférences, qui est « La vie, c'est comme une bicyclette. Pour ne pas perdre l'équilibre, il faut avancer. » Et je trouve que votre produit, votre outil, permet aux entreprises d'avancer dans la gestion et des RH. Donc, vraiment bravo pour le développement de cette... Non, mais vraiment, c'est très, très impressionnant. Et je vous souhaite plein de bonnes choses à titre personnel, mais également professionnel. Très beau développement, Albert. Et je finirai cet épisode comme je finis tous les épisodes de Happy Work en vous disant, cher Vincent, avant toute chose, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.